Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal. Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
Une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos éditeurs et à toutes nos auditrices. Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez la faute aux médias sur choc.
Ok, je m'excuse.
Nous avons un petit problème technique.
Vas-y, ça va bien aller. Continue.
Bon, est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui.
Parfait. Bienvenue à la faute aux médias. Bonne année tout le monde. C'est une nouvelle année, on se détend, on se relaxe, on reprend nos bonnes habitudes, puis on se retrouve pour une 7e saison d'affilée à la faute aux médias. Je suis quand même fier de ça.
Septième saison. Bravo à toutes et à tous.
Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, mais les vrais sont autour de la table aujourd'hui. L'équipe complète quand même, oui. Marie, si tu avais allumé ton micro, on t'aurait entendu le dire. Donc, je vais représenter encore une fois nos chroniqueuses, chroniqueurs. Nous avons autour de la table Étienne Tardy-Paradis, Charles Lemieux, DJ Charles Lemieux.
Ben ouais, qui est plus vraiment DJ.
Qui est plus vraiment DJ.
Non, tu garderas le même nom pour toujours.
Ce soir, c'est moi qui ai choisi la musique en 2 minutes, il y a 2 minutes. Ouais. Puis j'ai pris de façon totalement aléatoire 3 chansons. Donc, c'est comme la roulette russe. Là. On va voir si c'est
des surprises.
C'est bon ou pas.
J'aime ça.
Camila Rodriguez, CA, fidèle au poste et à la régie. Nous avons également Tessie Jean-Paul, Myriam Bernet ainsi que Marie Chabot-Johnson, Émilien Roscanou à l'animation. Donc ce soir à l'émission, on va vous parler des revues de l'année, d'humour, parce que à chaque fin d'année, on a droit à plusieurs revues de l'année. Cette année, on a été bien servi avec le Bye Bye. Radio-Canada, bien sûr, précédé d'Infoman de fin d'année. Mais il y avait aussi une autre émission de fin d'année à Télé-Québec faite par les appendices. C'est ça. Donc, il y en a eu 3 des importantes dont je me souviens.
Il y en a aussi d'autres dans des domaines plus spécialisés qu'on pense des revues de l'année à VRAC TV qui fonctionnent vraiment bien depuis quelques années pour essayer de justement démocratiser la politique, les problèmes sociétaux, mais aux jeunes, vraiment faites par leurs vedettes locales.
C'est bien d'essayer de démocratiser ces genres de sujets-là à VRAC TV, une chaîne qui est disponible seulement sur le câble, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte.
Il y a tellement de jugement dans ce
Il n'y a pas de jugement du tout, c'est juste que j'ai jamais eu le câble.
On est quand même une radio qui est sur le web, hein. Faut avoir certaines ressources pour être capable de nous écouter quand on y pense, là.
Oui, c'est sûr.
On est nous-mêmes un produit pour les privilégiés. Pensez,
Bon. Mais je pense quand même que les gens dans leur foyer ont plus Internet que le câble. Mais je suis pas certain. Peut-être que c'était pas mal équivalent.
Mais je pense que nous, quand on était jeunes, c'était les gens qui avaient un petit peu plus de moyens qui pouvaient avoir le câble. Mais de nos jours, c'est pas mal personne qui a le câble.
Non, les jeunes.
Non, il y a quand même encore beaucoup le câble.
Ben, chez les jeunes, est-ce qu'ils écoutent ça?
Mais en fait, il faut quand même... Là, ça fait qu'on a notre propre perception en tant que millennials parce qu'on sait que c'est une génération qui a de plus tendance à décrocher ou même à jamais accrocher au câble quand ils vont déménager en appartement. Mais il y a encore beaucoup de monde qui ont le câble. Et maintenant, en fait, c'est des forfaits à la carte. Donc, si on pense que la génération qui a des enfants en ce moment peut avoir le câble, il y a des postes pour leurs enfants.
Mais oui, c'est beaucoup des personnes de 30 ans et plus. Puis c'est aussi des forfaits. Par exemple, le téléphone vient avec le câble, vient avec ci, avec ça. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus des gens qui ont des moyens.
En tout cas, moi, mes sources, ma petite sœur, me dit que c'est out.
OK. Donc là, maintenant, on est rendu qu'on fait des sources avec nos proches. Là. Moi, je pensais que la faute aux médias, on était appuyé sur des faits puis sur des études. Là. Je pense à l'étude de nos propres
stéréotypes. On n'a pas les études sous la main. On doit se contenter sur nos sources
mais la sœur Camilla, c'est un fait. Elle existe, donc forcément, je pense qu'on est basé sur quelque chose de
plus. La sœur de Camilla représente toute la jeunesse québécoise. Maintenant qu'on a mis ça de côté, je vais juste terminer mon petite introduction en parlant d'autres sortes de revues de l'année qui existent aussi, cette fois-ci sur scène. Puis les apartistes avaient l'habitude, dans les dernières années, de faire des revues de l'année sur scène, justement. Mais là, ce soir, Camilla va avoir en entrevue nul autre que Christian Vanasse, un fier membre des apartistes.
Oui.
Et Camilla, tu me disais qu'ils vont faire une revue du siècle, c'est ça?
Oui, c'est leur prochain projet. Là. Ils vont faire à la place d'une revue de l'année, une revue du 21e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais ça sera après la première discussion qu'on va avoir maintenant.
Oui, ça promet. Donc ça va être lancé quand, est-ce que tu sais, à peu près?
La semaine prochaine, je pense que j'ai vu prochaine? Sur leur site le 13, on lui demandera.
OK, oui, on lui demandera. Mais d'abord, on va commencer. Les revues de l'année, ça peut poser toutes sortes de problématiques parce que c'est de l'humour qui essaie de faire un espèce de retour sur tout ce qui a marqué l'actualité. Des fois, c'est plus maladroit, des fois, c'est plus habile, mais c'est non sans controverse. Donc, on va se demander si cette année, il y a eu ce genre de controverse-là, peut-être moins que d'autres années précédentes où on avait eu droit à un blackface, par exemple, de la part de Louis Morissette au Bye Bye. Il y a quelques années. Mais Marie, toi, tu t'es intéressée un peu au bye-bye de cette année.
Oui, donc on n'est pas avec la grande chronique super organisée. Laissez-moi seulement faire une montée de lait. Une montée de lait qui est en fait partagée par ma collègue Camilla et on a pu s'en parler en profondeur avant l'émission. Puis c'est des fois un peu notre enjeu ici à la Photomédia, c'est qu'on se parle tellement qu'on finit par se parler de qu'est-ce qu'on veut aller à l'émission. Et là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a dit où. Mais dans le fond, tout se base sur, un peu dans ma tête, une espèce de réflexion, à savoir... On pense beaucoup à l'émission de comment les médias peuvent perpétuer certains stéréotypes, mais je me demande comment les médias ou le côté culturel les perpétuent à quelque part. Parce que la revue de l'année du Bye Bye, c'est vraiment le rendez-vous culturel de beaucoup de Québécois à la fin d'année. C'est sûr que il y a les apartistes sont quand même un groupe d'humour qui est un petit peu plus extravagant, qui fait dans l'absurde, donc attire un certain public, donc un public qui est plus de niche. Tandis que le Bye Bye 2007, c'est vraiment un at large, comme on peut dire, c'est vraiment le public général.
Oui, parce que surtout, c'est à la télévision, donc...
oui, ça... mais c'est à la télévision d'État, surtout.
C'est ça.
C'est un rendez-vous depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Il y a au moins 2 millions de personnes qui écoutent ça, le Bye Bye, même plus. Là.
Oui, en direct ou en rediffusion, selon les cas. Donc, c'est vraiment comme l'événement qui veut faire consensus, qui veut essayer de regrouper tout. Et depuis quelques années, je ne sais pas si c'est mon regard qui a changé, mais je trouve que les sketchs sont rendus de plus en plus faciles et tombent des fois dans des blagues qui pourraient faire juste rire la population en général. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est facile de faire des blagues sur certains stéréotypes qu'on voit, par exemple, je sais pas comment l'exprimer, mais le sketch qui m'a le plus marqué, c'est à travers le bye-bye, on voyait des politiciens qui étaient mis en scène avec certaines de leurs idées et on finissait par les associer à des problèmes de santé mentale. Et moi, sur le coup, ça m'a vraiment insurgé parce que je me suis dit, hey, on ferait pas ça dans d'autres circonstances ou tu sais comme maintenant avec le féminisme ou avec le racisme, mais on le fait encore pour tout ce qui est problème de santé mentale, pour ce qui est handicap, et on ridiculise ça beaucoup plus facilement parce que tu sais on s'entend que les personnes qui vivent avec de la schizophrénie, mais je suis pas sûre qu'ils ont vraiment aimé de voir un sketch avec Manon Massé qui disait que finalement mais ses idées en plus d'être ridiculisées finalement finissent par être atteintes de la santé mentale.
Ouais, c'était les sketchs les plus maladroits, là il y avait celui avec Gaëtan Barrette aussi, puis oui. C'était tout le temps relié à une maladie mentale.
Michael Jean aussi.
Michael Jean, mais c'est ça, on prend ce sujet-là qui est sérieux puis qui est pas drôle pour rire de personnes dont on peut rire, dont il faut rire, mais c'est ça, c'est peut-être un peu maladroit.
Oui, puis en fait, cette réflexion-là, elle a commencé de mon côté quand j'ai eu une entrevue avec Fred Dubé il y a quelques semaines par rapport au marathon Amnesty International écrit. C'est comme vivre, c'est pour la liberté d'expression. Je ne m'appelle plus du nom exact. Tessie, tu as peut-être un petit...
Je sais de quoi tu parles, mais non, je ne me souviens plus du tout.
C'est encore possible de le faire. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site d'Amnesty International. Il avait organisé une journée porte ouverte pour le faire de façon réelle, mais on peut encore envoyer des lettres à des combattants pour la liberté d'expression. Puis tout ça pour dire que quand j'ai discuté avec Fred Dubé, qui est un humoriste engagé qui, d'ailleurs, se fait assez ramasser parfois pour les polémiques qu'il peut créer parce qu'il aime s'attaquer aux élites de façon assez virulente. Mais qu'est-ce qu'on finissait par dire? C'est rire, oui, mais rire de qui? Est-ce que finalement, rire de populations qui sont marginalisées, ça a le même poids que rire des élites? Parce qu'à quelque part, l'humour, ben, c'est une façon de se défendre contre le despotisme, souvent. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on devrait rire de personnes marginalisées, comme les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ou encore rire de personnes qui ont subi des agressions et les faire de façon si facile que ça devienne un peu ridicule? Est-ce qu'on devrait pas utiliser cette plateforme-là pour faire quelque chose d'autre? Donc, moi, je voulais lancer la discussion avec vous sur trois sketchs particulièrement. On a déjà commencé à en parler, des sketchs sur la santé mentale, pour voir avec vous qu'est-ce que vous en aviez pensé, puis c'était quoi là, votre premier regard sur justement le bye-bye 2017?
Ben moi, je peux commencer.
Oui, vas-y,
mais... mais en fait, c'est drôle parce que c'est ça, on l'a regardé donc en rediffusion. Puis, ben, c'est sûr que moi, je dirais que les sketchs sur la maladie mentale, je trouve ça un peu malaisant. Et puis, vraiment maladroit, comme le disait Emilia, c'est le bon mot, je trouvais ça très maladroit. Puis, en faisant des recherches pour l'émission de ce soir sur Internet tout à l'heure, j'ai pu remarquer qu'il y avait un excès de louanges de la part des médias et de certaines compagnies sur le Bye Bye 2017. C'est assez fou. Comme il y a Vogue qui était super content de la parodie du Bye Bye de Céline Dion par rapport au clip qu'ils ont tourné avec elle. puis on peut voir que ça a été beaucoup... Le sketch, justement, de Belle Cause pour la Cause ont été beaucoup défendus par des internautes face aux critiques de Safia Nolin, qui a dit qu'elle trouvait ça pas drôle du tout. Puis, en général, les médias ont vraiment trouvé que ça, c'était vraiment réussi, comme le journal de Montréal disait que c'était plus frondeur que les années précédentes, ou il y a le Huffington Post Québec qui disait que c'était complet, courageux et hilarant, pour citer leurs mots. Donc, moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était complet, courageux et hilarant, et encore moins sur le sketch, sur les sketchs par rapport à la maladie mentale, que j'ai trouvé, en fait, déplacé. Moi, les propos de Safia Nolin m'ont pas choqué du tout. Je trouvais que ça avait vraiment du sens ce qu'elle disait.
Tu veux-tu nous rappeler un peu qu'est-ce qu'elle disait d'ailleurs?
Mais c'est ça, elle disait qu'en fait, elle trouvait pas, c'était pas un sujet drôle, puis qu'elle avait trouvé vraiment pas ça drôle. Elle a juste tweeté en fait une phrase, puis il a pas suffi de beaucoup plus pour qu'elle se fasse littéralement insulter sur les internets. Et ça allait très vite. Les gens en fait se sont attaqués à elle, son image, pour défendre ces sketchs-là. J'ai trouvé ça vraiment. Vraiment spécial.
On sait que tout le monde sait qu'en fait son opinion n'a pas de valeur.
Exactement, c'est ça. Parce qu'elle ne sait pas s'habiller, son opinion n'a pas de valeur selon les gens. C'est vraiment choquant.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça?
Ben, les médias ont louangé beaucoup le Bye Bye puis la revue de l'année d'Infoman. Puis je pense avec raison aussi dans une certaine mesure où. C'était des blagues qui fonctionnaient mieux puis qui étaient quand même plus réfléchies, mis à part certaines petites gaffes.
Mais c'est ça, il y avait d'excellents sketchs.
Il y avait d'excellents sketchs.
Vraiment.
Puis des sketchs, par exemple, le sketch où il y avait Migrant Games qui se passait au Stade Olympique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Parce qu'au début, j'ai quand même trouvé un malaise.
J'étais pas certaine, ouais, moi aussi.
J'étais pas certain. Mais quand ils ont commencé à lancer... faire le lancer du préjugé puis à vraiment le retourner comme ça, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de
mais ça
de
vous
ramener.
Voyez des sketchs comme ça, c'est des sketchs à mon avis qu'on a plus besoin parce que justement tu viens aider à quelque part des personnes qui sont plus marginalisées justement à défaire des stéréotypes. Tu sais, moi quand je pense un peu à la revue d'Infoman, je pense que c'est un peu ça qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'ils rencontrent directement les hommes et les femmes de pouvoir puis ils remettent en question leurs propres décisions en les niaisant un petit peu avec de l'humour. Tu sais, on peut penser d'ailleurs au sketch qu'il a fait avec peut-être, mais on sait sûr que c'est pas parfait,
mais ouais,
ça vire des fois dans la complaisance.
Moi j'ai
une
opinion quand même assez tranchée, je pourrais dire. Je connais Infoman depuis même mon arrivée au Québec, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai découvert son émission et je trouve qu'il est vraiment comment dire, il fait la promotion des personnes qu'il reçoit, surtout pour justement l'émission de fin d'année, je trouve, et ses interventions avec Justin Trudeau, que ce soit son émission de 2016 ou celle de 2017, c'était vraiment pas des critiques, c'était pas des critiques du tout pour moi.
Quand même avec Trudeau, quand il lui offrait des
chaussettes. Je trouvais que c'était léger. Oui, mais quand Trudeau répond pas vraiment, il va pas plus loin, puis on passe à autre chose.
Mais le problème, ce que je trouve, puis je vais te relancer la balle, Étienne, c'est que des fois, un politicien sait qu'il n'aurait jamais rien à perdre à aller à Infoman. Point.
Mais
il sait qu'aller à Infoman, s'il a fait des gaffes, ben ça va juste lui apporter un capital de sympathie.
Pour moi, ça va encore plus loin que ça.
Ben, c'est sûr que les politiciens le savent, ils vont instrumentaliser la chose, parce que bon, il faut avoir une image très drôle, parce que bon, Jean-François Lisée, je pense qu'il est victime en ce moment d'une image qui n'est pas drôle, il le sent, il le sait.
C'est vrai, oui.
Et la plupart des politiciens et les politiciennes le savent, il faut faire ça, c'est important. Après, bon, Infoman agit dans un cadre qui est celui de Radio-Canada, et agit dans... Est-ce qu'il pourrait faire ce qu'il fait s'il n'accepterait pas de recevoir des politiciens, des politiciennes connues. Tu sais, il a besoin d'être ami-ami avec tout le monde pour pouvoir faire ce qu'il fait. Oui. Après, c'est très bon enfant en règle générale. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment... Il va pas en profondeur des choses. Il reste toujours très, très en surface. Il rit, il relève des choses. Je pense qu'il a sa place. Mais effectivement, de dire que c'est un grand critique...
On n'en était pas là, mais moi, je venais juste à dire que des sketchs comme lui de Migrant Games, je trouvais ça beaucoup plus approprié que de faire des...
Dans le bye-bye, ouais.
Oui, dans le bye-bye, que de faire des sketchs, par exemple. Moi, j'ai pas tant aimé le sketch de, comme on en parlait tantôt, justement, avec Camilla, de Gilbert Rozon, qui était pris dans la trappe d'égout avec...
par rapport à It.
Mais apparemment, ouais, c'est un film que j'ai pas vu, donc je comprenais vraiment pas la référence.
Mais... C'est un film qui attire des enfants dans les trappes d'égout, là. En gros, c'est ça qui
mais
représente.
Mais ça, c'était juste pas très bon.
Le sketch que Marc Labrèche avait fait à son émission... Info sexe et mensonges sur Marc Gilbert Rozon et Éric Salvaille qui se retrouvent tous les deux dans le container de le recyclage ou quoi. Mm-hmm. Celui-là était vraiment cinglant, vraiment très drôle. Celui au bye bye un peu moins, mais bon.
Mais c'est juste que je trouve que ça, que justement dans ces deux cas-là, c'était des personnages d'autorité qu'on veut un peu ridiculiser parce que maintenant, justement, ils sont rendus un peu les parias. Mais je trouvais qu'ils ont manqué un peu leur shot parce qu'ils finissaient par devenir comme n'importe quel politicien ou comme n'importe quel personnage qui se faisait critiquer, puis on relevait plus nécessairement l'importance de leurs actes.
Oui, mais ouais. Il y avait le sketch aussi avec justement la parodie d'Éric Salvaille qui était tout le temps tout nu, là, puis qui se faisait aller là, partout. Là.
Ouais. Si je peux revenir sur qu'est-ce que tu disais tantôt, Myriam, sur Infoman, puis je pense que je suis d'accord avec toi parce que toi, ça m'est revenu. L'année passée, il y avait eu un sketch avec, pas un sketch, mais bon, c'était Infoman qui servait la nourriture à Gaétan Barrette.
Surtout
sa polémique sur la nourriture qui servait justement en centre hospitalier
je m'en souviens.
De longue durée. Puis. C'est comme si c'était une blague, là. Mm-hmm. Il apporte de... Je m'en pis c'est quoi le nom? C'était patate en poudre, puis là, de la viande en poudre, puis là, carrément, le cocktail en poudre. Puis c'est pas drôle, parce que tu te dis, mais c'est parce que c'est une vraie problématique.
C'est un vrai problème.
Puis en tout cas, moi, sur le coup, j'étais vraiment comme un peu choquée que non seulement Gaétan Barrette ait accepté de faire ce sketch-là, mais qu'il monte comme ça, comme si c'était drôle. OK, regarde, c'est drôle, mais comme les gens qui sont dans cette situation-là, qu'ils vivent à tous les jours, je trouve que c'est vraiment un manque de sensibilité énorme. Puis en plus, c'est comme si que là, c'est Infoman puis Gaétan Barrette qui se mettent ensemble pour rire de qu'est-ce qu'ils vont donner à manger aux personnes âgées. C'est comme...
Ça pose la question super difficile et super importante des limites. Est-ce qu'on peut rire de tout?
Ou est-ce qu'on
peut rire de tout, mais pas avec tout le monde? Donc, je sais pas, c'est une question vraiment super intéressante que j'ai tendance à poser autour de moi quand le sujet vient sur la table, mais j'ai pas de réponse moi-même. Je sais qu'il y a des sujets dont je ne peux absolument pas rire, puis d'autres qui me font quand même rire. Ouais. Et je pense que le Bye Bye est un bon exemple, ou même l'émission d'Infoman, de nos limites aussi, de ce qu'on trouve drôle ou pas, et ce qui est acceptable ou pas pour nous, avec notre subjectivité.
Mmh. Pour rebondir sur ce que Marie disait tout à l'heure, les parias, qu'est-ce que vous avez pensé du sketch sur Kim Jong-un qui lance les missiles? Parce que, d'après moi, c'est tout à fait correct de rire de Kim Jong-un, mais il n'y a pas des questions qui se posent avec Anderval qui se déguise en asiatique, puis qui joue les stéréotypes en disant tous les R comme des L, puis en... Je sais pas, je pose la question...
C'est intéressant.
Je me souviens même pas de ce sketch-là, pour être franche avec toi. Mais... Je me souviens très bien, par contre, de la parodie de Despacito.
Ça, je voulais t'en parler, je l'avais noté sur ma petite liste.
Mais si tu veux, on en parlera dans le second segment de l'émission, parce que j'en ai long à dire, puis je sais que vous allez embarquer. Mais mais je sais pas. Je pense qu'il y a tellement pas de sensibilité. Les gens ont compris que le blackface, ça se faisait pas. Ouais, ça, ils ont compris.
C'est ça.
Mais là, donc, on passe au yellowface. Ça, c'est comme... Ça. On dirait qu'ils comprennent en surface, tu sais. Ils vont comprendre, ça se fait pas. Mais ils comprennent pas vraiment pourquoi. Puis tu te rends compte qu'au final, l'équipe qui fait le bye-bye, elle change pas, là. Il y a pas, genre, y a-tu un Asiatique qui était là, qui était comme, ah, me semble une excellente idée.
Non, mais il y avait un comédien noir quand même, faut le reconnaître pendant à peu près 5 secondes parce qu'il voulait pas faire
de... Ah bon, le quota est rempli, c'est bon.
Puis parlant de quota, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu étonné, c'est que, vous savez, juste après qu'il a fait le décompte, il y avait des clips de partout au Québec où les gens disaient bonne année, même partout au Canada.
Oui.
Puis j'ai été surpris du manque de diversité affichée.
Ah non, mais clairement.
Je comprends qu'au Saguenay, il n'y a pas la même proportion de diversité nécessairement, ou en Gaspésie.
Oui, mais ça reste encore Montréal, drôle, hein, parce mais qu'il y en a. Il y en a dans les régions.
C'est clair qu'il y en a. Mais quand on voit des groupes à Montréal, pour représenter par exemple Montréal, c'est des groupes de jeunes tous blancs. Il y a un problème parce que
Montréal,
c'est quoi la proportion
de tellement
personnes
diversifiées,
issues de la diversité ou racisées à Montréal? C'est 30%,
mais vous savez ce qu'on va nous répondre à ça? Les détracteurs nous diraient, oh, mais ça, c'est les gens qui envoient pas leurs vidéos. C'est comme pour dire que les femmes n'ont pas tel emploi parce qu'elles postulent pas. Tu vois?
Il faudrait peut-être se demander comment ça se fait que les gens de la diversité se désintéressent des médias
traditionnels. Bien sûr, c'est ça la question principale. C'est ça la vraie question pour moi.
Parce que justement, c'est un sujet qu'on pourra reparler là, dans les prochaines émissions, ça sera un thème intéressant. Mais justement, pourquoi les minorités ethnoculturelles se désinvestissent des médias et décident de créer des médias alternatifs?
Mm-hmm. C'est toutes sortes de réflexions que nous amène cette discussion. Avant d'aller en entrevue avec Christian Vanasse des Apartistes, je le rappelle, avec Camilla, on va écouter une petite chanson. Camilla, sais-tu qu'est-ce qu'on va écouter?
On écoute « Filme-moi » d'Alice et moi.
On écoute ça.
Cinématographique, il te bondit que
Donc, c'était une superbe chanson que vous venez d'écouter. On va vous rappeler le titre tout à l'heure parce que je m'en souviens plus exactement. Mais...
C'est Filme-moi.
Filme-moi de...
Alice quelque chose.
Bon, ben Alice, filme-moi, voilà.
C'est ambigu.
En cette partie d'émission, nous allons interviewer Christian Vanas, qui est un qui est en fait un des membres des Apartistes. Donc, pendant qu'on est en train d'établir la communication, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais si vous voulez bien, on peut discuter de d'autres des sketchs qui vous ont peut-être marqué dans ce bye-bye, ou peut-être un coup de cœur, peut-être pour aller sur une note plus positive.
Je pense qu'on l'a au téléphone. Christian, est-ce que tu es avec nous?
Ah! Oui, absolument, je vous entends.
Bon, okay. Ben, bienvenue.
Génial. Donc, je t'ai demandé de venir aujourd'hui, Christian, pour parler d'humour, d'enjeux sociaux. Christian Vanas, que le public connaît surtout comme étant un membre des Apartistes, mais qui est aussi un collaborateur à la radio Radio-Canada, qui est aussi professeur à l'École nationale de l'humour, et ouais. qui prépare un nouveau spectacle avec les Apartistes, une nouvelle revue du siècle, en fait. Oui. Bonjour.
Et bonsoir à tout le monde. Ceci dit, j'ai écouté depuis le début votre émission, puis moi je suis en campagne, donc je suis à l'extérieur de l'urbanité, et puis nous c'est Internet par satellite et le câble et deux chambres en cours, pas le choix.
Ah bon, c'est bien d'avoir un témoignage sur le terrain en direct.
Oh, oui, Dieu. Internet, je paye super cher un forfait de crotte. C'est ça le problème. C'est un peu normal aussi. Je veux dire, je restais à Rosemont puis j'avais un forfait extraordinaire avec télé, câble, internet pour une fraction du prix que je paye ici. Hein, mais c'est ouais. Ça.
Effectivement. Christian, les Apartistes là, sont ouvertement de gauche. Je pense que oui. Toi aussi, on peut le dire que tu es ouvertement de gauche. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'humour engagé?
D'abord, j'aime pas le terme engagé parce que pour moi, l'humour est neutre. C'est celui qui l'utilise après, mais l'humour, c'est un outil. C'est comme un marteau ou un tournevis. On pourrait pas dire qu'un tournevis est de gauche ou de droite, là. Mais donc pour moi, l'humour, c'est un peu la même chose. Quand on dit humoriste engagé, on donne souvent ce nom-là, ou en tout cas cette étiquette-là, à ceux qui attaquent la chose politique ou sociale, mais avec un biais de gauche. Par contre, un humoriste de droite ne se fait jamais emmerder avec ça. Mm-hmm. On ne dira jamais, par exemple, que Guy Nantel est engagé de droite. Là.
Non, c'est vrai.
Alors que pour moi, il me semble que c'est assez évident qu'il véhicule d'autres valeurs, puis il y a d'autres opinions, puis c'est correct aussi. Là. Nous autres, on est en faveur de la biodiversité, que ce soit en environnement ou en humour, mais qu'on nous colle souvent le terme « engagé », alors que pour moi, Martin Mapp, qui vend l'Aublat, est aussi engagé, sinon plus que moi.
Effectivement.
C'est dans le sens où il devant un système de valeurs, il devant une consommation, il devant des chars, il devant de la bouffe.
Mais on s'en rend pas compte parce que c'est l'idéologie dominante.
Oui, exact. Tu sais, fait qu'on nous colle le terme engagé, chanteur engagé, humoriste engagé, artiste engagé. Fait que ça te confine aussi dans une case puis une niche dont tu peux difficilement ressortir après pour t'adresser au plus grand nombre parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, il est engagé, je m'en crisse. »
Mais d'ailleurs, laisse-nous d'abord reformuler la question.
Ouais, non, c'est correct.
Justement, tu parles de niche, tu parles du fait que vous êtes un peu laissé à part dans le terme « engagé », mais ça fait quoi justement d'être dans cette niche-là et d'essayer d'aller dans l'univers médiatique puis humoristique avec un message qui parfois peut être différent de celui qu'on entend un peu partout?
Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que moi, comme tous les membres des Apartistes, de toute façon, on est des grands fans d'humour, au sens très large. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un disque d'Yvon Deschamps chez nous. J'ai découvert dans les disques la discographie de mes parents. J'ai découvert Clémence Desrochers, puis Yvon Deschamps, Les Cyniques. Puis après ça, je me suis intéressé du côté français à Davos, des proches, du côté anglais au Monty Python. Plus tard, George Carlin, j'ai été nourri de ça, mais je retrouvais pas au Québec assez de matériel pour me satisfaire, parce qu'après le référendum, je fais une courte parenthèse, mais on va expliquer qu'après le référendum de 95, on dirait que tout l'humour, il y avait beaucoup d'humour politique avant, on a qu'à penser à Yvon Deschamps, Les Cyniques, bon, on nous le rappelle assez, là, comme s'il y avait juste eux autres qui avaient existé. Mais il y a eu un vacuum à un moment donné. On est tombé dans l'humour absurde puis le non-sens. Les Anglais appellent ça le nonsense, mais un peu à la manière des Monty Python, Ding et Dong a frappé tellement fort que que tout le monde s'est mis à faire de l'absurde. Et la question sociale a été évacuée. On parlait plus du « nous », on parlait du « je ». Autant dans les sketchs de Deschamps, de Clémence, on pouvait retrouver, puis de Sol, de Marc Favreau, on pouvait retrouver un on parlait du vivre ensemble. Tu comprends? Donc, et là, tout à coup, avec Ding et Dong, c'est fini. Quoique, c'est super bon ce qu'ils font, mais tout à coup, là, c'est on fait juste des jokes. Puis c'est parfait, puis c'est correct, c'est merveilleux, mais il y avait un manque, puis au tournant 2000, ce manque-là était toujours criant, il n'y avait pas de revue de l'année, le bye-bye était fini. Il y avait Radio-Canada avait enterré ça suite à de nombreuses critiques, puis parce que c'était une entreprise quand même, c'était un grand défi à faire.
Mais les artistes ont continué à le faire. En fait, ont même recommencé à le faire. Ça fait longtemps que vous le faites. Là, je me rappelle, moi, je suis allée voir un spectacle de revue de l'année il y a peut-être 4 ans de vous. Puis,
on a commencé en 2003. Personne n'en faisait au théâtre, là, sur scène. Personne n'en faisait. Nous autres, dans le fond, on a créé les apartistes pour notre propre santé mentale. On avait envie d'entendre de l'humour politique. Puis on s'est dit, ben shit, on va en faire nous-mêmes d'abord. On va le faire à notre façon, à notre goût. C'est ça qu'on a fait.
Mais une des choses qui est intéressante avec les apartistes, c'est que malgré les personnes qui ont passé à travers le groupe, c'est vraiment le groupe qui se distingue justement dans la conception de créer un « nous ». Moi, je me demandais, vu que dans chaque message qu'on a, qu'il soit neutre, ou en fait, il est sûrement, d'habitude, il l'est pas, là, neutre, on a une création d'un univers collectif, d'une aspiration. Mais c'est quoi l'univers collectif que les apartistes essaient de mettre de l'avant?
L'indignation. Je pense que c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le common decency que défendait Orwell, par exemple, dans le...
C'est-à-dire?
George Orwell défendait le common decency, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, le peuple a le droit de se révolter contre l'ordre établi s'il juge que l'ordre est injuste.
Oui.
T'as absolument le droit. T'as même le droit, t'as le devoir de le faire. Si tu le fais pas, c'est fini. Lui, il parlait évidemment du fascisme, puis de ce qui s'en venait dans la Deuxième Guerre mondiale, il désignait probablement le nazisme autant que le communisme stalinien.
Donc, est-ce que pour toi, c'est un devoir de rire?
De rire des puissants.
De rire des puissants, oui.
Oui, absolument.
Et justement.
Alors, je suis pas capable de faire des jokes sur les blondes qui sont folles, puis les gars qui montent pas les sièges de toilette, puis les BS, puis les femmes en. Je m'en sacre, là. Ça me passe du pied par-dessus la tête. Nous autres, on préfère viser Bombardier, on préfère viser le gouvernement, ceux qui prennent les décisions pour les gens d'en bas. Ça nous intéresse pas frapper sur des gens ordinaires. Ça nous intéresse zéro.
En parlant de gens qui frappent sur les gens ordinaires, tu vas me voir venir, mais dans les dernières années, l'humour a connu pas mal de polémiques sur la liberté d'expression, entre autres avec Mike Ward, puis le petit Jérémy, plus récemment avec Guy Nantel, qui avait ri d'Alice Paquet, la jeune femme qui avait accusé le député Jerry Slagounos d'agression sexuelle. Est-ce que les humoristes devraient rire de tout?
De tout, absolument. Absolument. Absolument qu'il faut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, tu l'as bien souligné. C'est une très belle phrase de Woody Allen que je trouve qui... on peut rire de tout, mais ça dépend, tout est dans la manière. George Carlin a fait d'excellents sketchs sur la culture du viol en dénonçant le viol. C'est quoi ton message, dans le fond?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais avec ton humour? Qu'est-ce que tu fais avec ton marteau? Je m'en fous, t'as un marteau dans les mains. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais une maison ou tu fais une planche pour envoyer quelqu'un à la potence? Tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec ton humour? Il y avait de l'humour dans les camps de concentration pour survivre. Pour survivre mentalement, ils faisaient des jokes. C'est incroyable. J'ai lu des livres de blagues de la guerre serbo-croate. J'ai lu des livres de blagues faites dans les camps de concentration. Et on a aussi eu des blagues pour le massacre du Rwanda. Il y avait des blagues contre l'ethnie qui allait être décimée. Il y avait des blagues contre les Juifs par les nazis. Tu sais, donc l'humour, Göring faisait de très bonnes blagues, semble-t-il. Mais tu sais...
J'ai de la misère quand même à voir comment une blague sur les Juifs par des nazis... Peux-tu éclairer ma chandelle? Parce que j'ai l'impression que, oui, on peut faire des blagues, par exemple, sur toutes les ethnicités possibles, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est de confession musulmane, de rire des musulmans, que ce l'est pour moi, qui est blanche, d'origine judéo-chrétienne, de le faire.
Ah ben oui, c'est aussi, Woody Allen le soulignait bien en disant, les blagues sur les Juifs, c'est très drôle, mais dites par un Allemand, c'est... c'est étrange.
Mais,
oui, c'est évident. Mais en même temps, il y a beaucoup de Juifs qui font aussi des très bonnes blagues contre la Shoah ou contre le culte qu'on voue, que vous, certains Juifs, à la Shoah, puis ou à l'espèce de commercialisation, de marchandisation de ce souvenir-là.
Mais à quelque
il y a
part,
des blagues incroyables. Mais ils peuvent se le permettre, c'est effectivement, ça. Parce qu'ils partagent quelque chose de culturel. Moi, par exemple,
et qu'il y a des sujets
je ne fais pas de jokes. Ben oui. Par exemple, je ne ferais pas des jokes sur la culture afro-américaine. Tu sais, je suis qui? Moi, je suis un blanc. Mais ce que je vais faire, je vais rire de moi, le blanc. Tu sais, je vais pas me servir de ça pour... je vais y aller par moyen détourné, mais je pourrais pas me mettre à la place de l'autre. Tu sais, je
veux dire, mais d'après toi, la liberté d'expression, est-ce que c'est ça? C'est la liberté de... Est-ce que, dans le fond, on comprend bien dans notre société la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut dire, c'est ma liberté de pouvoir rire d'un petit garçon qui est handicapé, de la même manière que c'est ta liberté de décider que tu veux pas parler des Afro-Américains? Est-ce que le débat est bien cadré?
Non. Parce que la plupart du temps, les gens, dans le libellé sur la liberté d'expression, oublient de lire au-delà de la virgule. Et il y a quelque chose au bout de la virgule. La liberté d'expression est totale, est magnifique, est fantastique. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça.
Mm-hmm.
Voilà. Il y a des responsabilités qui viennent avec ça, puis ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence.
Les responsabilités en termes de diffusion, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir t'entendre, puis tu as un impact sur ce que, dans le fond, on propager des stéréotypes ou alors en renforcer. Parce que les gens t'entendent, puis tu as un grand impact sur. Tu as beaucoup de diffusion, au final, en tant qu'humoriste qui passe à la télé.
Oui, puis il y a des lois qui existent, tu peux pas aller contre ça, il y a la diffusion de la haine, par exemple, la haine envers un groupe, la haine envers une personne en particulier.
Mm-hmm.
Je prends l'exemple de Jérémy, j'ai aucun problème à voir des humoristes faire des jokes sur les handicapés en général ou sur un handicap en général. C'est sûr que ça va être blessant pour quelqu'un, je vous entendais parler tantôt de schizophrénie, puis les gens schizophrènes pourraient être choqués par ce qu'ils voyaient dans le bye-bye, mais... Oui, puis si je fais une blague sur les diabétiques, ça se peut qu'un diabétique soit fâché. Tout humour est offensant. On peut pas ne rien faire. J'ai fait un sketch à un moment donné.
Par contre.
Comment?
C'était pas nécessairement dans ce sens-là que je pense qu'on voulait l'entendre, mais plus dans le sens de faire que si un type de population est discriminé en fonction d'un certain type, je pense pas que les diabétiques sont autant discriminés que le sont les personnes qui ont la maladie.
C'est ça, il
n'y
a pas de système de domination dans la société par rapport aux diabétiques de la même manière qu'il peut en avoir par rapport aux personnes racisées ou par rapport aux femmes.
Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. T'as absolument raison. Mon exemple est peut-être mal choisi, mais non. Donne-moi 2-3 semaines, je vais te trouver un meilleur exemple.
On pourrait éviter à l'émission à ce moment-là, alors.
Super. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout humour est offensant. Il faut pas, non plus penser que l'humour est inoffensif. L'humour est offensant. À preuve, des gens qui n'avaient aucun sens de l'humour sont allés vider leur chargeur sur la rédaction de Charlie Hebdo. Aucun être humain mérite d'être tué pour ce qu'il dit ou ce qu'il écrit.
Non, ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, oui.
Tout à fait, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, mais aussi, tu as une responsabilité à ne pas véhiculer la haine, à ne pas attaquer injustement un groupe, par exemple, des personnes qui sont racisées, tu t'enfonces le clou, puis t'es ostracisé encore plus. Mais évidemment que tu as une responsabilité. Et c'est là que... l'humoriste doit se poser la question, est-ce que je poursuis avec ma blague ou est-ce que j'arrête? Parce qu'on est toujours confronté à ça.
Mm-hmm. Mais en tant que, on se le cachera pas, comme la majorité des personnes dans le star system, que les humoristes le soient ou pas dans le star system, là, on a affaire à des personnes blanches, majoritairement des hommes.
Oui.
On dirait que ça prend quasiment...
Hétérosexuel, je pourrais rajouter aussi.
Effectivement, cisgenré. puis ça prend quasiment un cours de sciences politiques pour comprendre tous les enjeux qu'il y a par rapport au racisme, au sexisme, tous ces enjeux-là. Qu'est-ce qui reste pour les humoristes? Comment faire pour se dépêtrer dans tout ce marécage-là?
Ah, il reste tellement de choses. C'est fou. Moi, quand j'entends des humoristes, je dis, on peut plus rien dire. C'est pas vrai. Force-toi, casse-toi la tête, voyons donc.
Un peu comme les hommes dont on critique les méthodes de séduction qui pensent qu'ils peuvent plus...
Oh! oh, les pauvres petits choux, ils peuvent plus parler aux femmes.
Ce cher Richard Martineau.
La sexualité est brimée, tout le monde le sait.
Hein. Ben oui, mais écoute, c'est terrible. Moi, je lisais en plus quelqu'un qui dit hey, franchement, vas-tu falloir demander la permission à ma femme pour fourrer? Ben oui, évidemment. Évidemment, Chris, c'est pas ton corps. Évidemment. Mais tu sais, tu comprends, c'est ça, les. On confond les droits puis les responsabilités un peu, puis j'ai l'impression que d'un côté, des gens pensent que la liberté d'expression te donne le droit de tout dire, puis de l'autre côté, des gens sans aucune responsabilité, puis de l'autre, des gens disent « on veut m'empêcher de parler ». Ben non, personne t'empêche de parler. C'est qui? De toute façon, Martineau, c'est lui qui dit ça. Il y a deux chroniques dans deux grands quotidiens. Il y a une chronique à la radio, puis une chronique à la TV, puis sur Internet, puis c'est lui qui dit qu'on peut plus rien dire. Come on!
Effectivement, c'est lui qui poursuit les petits médias après. Effectivement.
Oui, c'est ça. Tu sais. Mais... c'est vraiment drôle de voir les tout-puissants se croire victimes. Puis, oh, c'est cute.
Oui, mais c'est facile à vivre comme ça. Hein. Puis, t'sais, là, l'humour représente un peu est là pour faire un portrait de la société, mais on peut voir aussi qu'il y a certains mouvements quand même dans d'autres pays qui des fois essaient que l'humour devienne un petit peu le, comment on pourrait dire, le leader en matière de changement social.
Non, faut pas.
Mais justement, faut pas. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pays, en fait, on peut le voir justement de venir à être la parole de certains activistes. Je dis pas que ça va être pour chaque pays, mais on en est où au Québec? Puis en fait, pourquoi faudrait pas? Pourquoi?
Ben, faudrait parce que les humoristes en général, les artistes en particulier, les humoristes en particulier sont des gens à l'ego très 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 grand. Faudrait pas leur donner plus de reconnaissance que ça, là. Faudrait pas penser que
okay,
non, mais je pense que le vrai changement social, c'est les groupes citoyens, c'est les gens qui s'impliquent à la base, c'est les militants, les militantes, c'est les scientifiques, c'est les philosophes, c'est tout le monde. Des fois, il y a des gens qui disent ah, mais les humoristes, vous avez un pouvoir. On a un pouvoir, effectivement, parce que on a une tribune privilégiée. Je pense qu'il n'y a aucun groupe, il faut qu'on le reconnaisse, là. Aucun groupe a autant de facilité à se faire entendre. Il y a du mot partout, partout. Des chroniques, de l'humeur. On nous demande partout d'aller mettre un grain de sel amusant dans l'actualité, dans la météo. Il y en a, là, c'est fou. Fait que on a ça, mais c'est une chance incroyable. On pourra en profiter pour attaquer des vrais sujets, pas faire juste l'anecdote. Mais c'est pour ça, entre autres, qu'on a arrêté les revues de l'année.
Mais si je peux donner un contre-exemple, il y avait Coluche en France, qui, grâce à l'humour, a réussi carrément à apporter beaucoup, beaucoup de changements. Par là, je pense que les humoristes, en général, ont un devoir, parce que c'est une tribune incroyable que le commun des mortels n'a pas, tu sais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des tribunes à la radio, à la presse, peu importe. Alors, peut-être, je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites que les humoristes ont un ego assez grand. Puis en même temps, j'imagine qu'il le faut pour aller sur scène et affronter le public. Mais, bon, vient la question de dire, je pense que les humoristes ont un devoir et le problème qu'on arrive, par exemple, avec Mike Ward, qu'on arrive avec Guy Nantel, ben, ce devoir-là est pris à des fins individuelles. Donc, je pense que Guy Nantel, c'est pas une surprise de dire qu'il a voulu créer la polémique parce que, ben, au bout du compte, les gens vont voir son spectacle. C'est lui-même qui disait, ben, vend des billets, exactement. Mais le problème est un peu à ce niveau-là. C'est si on fait de l'humour pour faire de l'argent, ce qui va s'en dégager nécessairement, ça risque pas d'être un pot pour la collectivité.
Oui, puis l'exemple de Coluche me touche profondément parce que ça a été une de mes idoles de jeunesse aussi. Coluche a changé beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que finalement, les humoristes peuvent pas changer le monde, mais ils peuvent changer du monde. Mmh. Coluche l'a fait. Il a créé les Restos du Cœur avec des amis, puis il s'est marié avec un autre homme de façon symbolique pour faire accepter l'homosexualité à une certaine époque. Il s'est présenté à la présidentielle, puis il l'a payé très cher, par contre. Le tribut à payer a été très lourd. Et pour sa santé mentale, et pour ses finances, et puis finalement, malheureusement, il est décédé, il n'a pas pu aller au bout de ses rêves, puis nous emporter dans sa folie, mais reste que Coluche s'est servi de sa tribune pour défendre les opprimés, pour prendre la parole pour les petits, pour les prolétaires, pour les rejetés, pour les asociaux. Il l'a fait consciemment, puis il y a toute mon admiration pour ça. Donc, on en revient à ce qu'on disait tantôt. Étant donné que tu as cette tribune-là pourquoi tu t'en servirais pas? Puis je reviens à la common decency. Pour moi, c'est un devoir d'au moins dire quelque chose de pertinent là-dedans, là, tu sais. Tu peux amuser les gens. Dans un spectacle, là, d'une heure et quart, là, faut passer un bon 20-30 minutes, là, à niaiser, puis à faire le casse, puis à être... Quelqu'un me disait, à un moment donné, il faut être impertinent pour pouvoir être pertinent. Donc, il faut amener les gens à rire. On regarde un show de George Carlin, par exemple, qui est une de mes idoles aux États-Unis, qui est décédé. George Carlin, les 10 premières minutes, il appelle ça du crowd working. C'est juste des jokes faciles, premier niveau, là. On rit, perruque, pet punch, on parle de pète, de caca, puis ha, ha, ha. Une fois que tu ris, que tes défenses sont baissées, bam, il arrive avec le gros stock. Là, il arrive avec le stock social. Là, il arrive avec le stock philosophique. Là, il arrive à te parler de sujets que tu aurais peut-être pas reçus de la même façon si tu n'avais pas ri avant.
Là, on sent l'enseignant, on sent l'enseignant en toi qui arrive.
Ah, c'est ça!
Christian Lamas, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup de t'être joint à nous. On va pouvoir te voir sur scène avec la revue du siècle que tu fais avec les apartistes.
Oui.
Le siècle, pourquoi?
Parce que les apartistes ont eu 15 ans, puis à un certain moment, on a eu 15-16 ans, puis on s'est dit, ben le siècle aussi, on est nés pratiquement en même temps, donc on est des millennials, nous autres, fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas porter un regard là-dessus, puis aussi parce qu'on voulait arrêter la revue de l'année. La revue de l'année, pour nous, nous semblait une occasion de surfer sur de l'anecdote, puis de faire des jokes sur des événements qui, en réalité, étaient juste des effets. On voulait s'attaquer à la cause. Donc, on veut plus voir... dans le fond, on fait une petite blague dans nos communications pour expliquer le spectacle en disant, si aujourd'hui on est dans l'arbre, qu'est-ce qu'on a bien pu manger pour en arriver là? On se rend compte, si on remonte, on fait, hey shit, ça fait longtemps qu'ils sont là, les libéraux, hein? On a donné de l'argent à Bombardier, hein? On l'a pas réglé encore, les trucs Bouchard-Taylor, puis ça. Ah oh, non, c'est vrai. Fait que, donc, c'était pour nous plus intéressant d'aller faire une revue du siècle qu'une revue de l'année. Ça nous permet aussi de faire un spectacle à plus grand déploiement, un peu avec un véritable orchestre vivant sur scène, avec des vrais musiciens qui sont pas téléchargés, qui sont payés honnêtement. Puis, ça fait en sorte que ça nous fait un show beaucoup plus festif, beaucoup plus amusant qu'une simple revue qui, pour nous, était devenue un peu une bédelle sur laquelle on pouvait s'asseoir puis ronronner.
Oui. Bon, ben merci beaucoup, Christian.
Ben, merci à vous.
Au revoir.
Bonne fin d'émission.
Merci.
Il était minuit. Minuit passé. C'était pas de l'ennui. J'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre. Et puis une cigarette. Les lumières dansaient. Elles éclairaient ses yeux. C'étaient les reflets d'une femme à la peau bleue. D'une femme à la peau bleu. Je suis rentrée tard. Elle m'a suivie. Je crois plus au hasard. Depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond que de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue. Bleu. bleu. Il était minuit. Elle m'a suivi. Les lumières dansaient. Elles éclairaient ses yeux. C'était les reflets d'une femme à la peau bleue. Il était minuit.
C'était Une femme à la peau bleue de Vendredi sur mer sur l'album Marée basse. Une femme à la peau bleue, je pense qu'ils ont lu les Schtroumpfs et ils ont été inspirés par la Schtroumpfette.
Assurément.
Assurément. Parlant de Schtroumpfette, non, ça n'a aucun lien. Je ne ferai pas de lien avec la Schtroumpfette.
Merci.
On parlait de Despacito.
Emilia essaie de faire un pont.
J'essayais de faire un pont.
Alain Gravel.
Alain Gravel?
Oui.
OK. Bon, ben écoutez, je suis dû pour me ramasser à Radio-Can.
Quel triste destin.
On parlait de Despacito, le clip qui nous a fait jaser. Je sais pas s'il a fait jaser beaucoup de monde à part nous autres, parce qu'on est quand même sensible à certaines questions. Mais Camilla, j'aimerais ça t'entendre, parce que justement, il y avait un clip dans le Bye Bye à Radio-Canada,
ouais,
où on reprenait la chanson Despacito et on la parodiait. Mm-hmm. Puis, j'aimerais ça t'entendre, ouais, parce qu'on reprenait plein de mots puis on les faisait finir en haut, puis
exactement,
c'était très drôle, puis c'est la culture latino-américaine, puis
c'est drôle, la culture latino-américaine,
c'est drôle,
c'est
la culture
une
latino.
Blague, les latinos sont une blague, l'espagnol est une blague en tant que tel, tu sais, il suffit de rajouter O puis A pour avoir l'air stupide. Puis je sais que les gens le font en sachant qu'ils ont l'air stupides. Hein. Mais n'empêche que dire « Ah, toiletto, autobusso, haha, je suis un humoriste. »
Non,
non. Non, ça ne suffit pas. Puis, d'ailleurs, c'est ça qui me dérange, c'est que on transforme une langue, des cultures, en blagues, en disant que ça, quelque chose va être drôle juste en essayant de mimer de l'espagnol comme ça. Ben non, c'est pas drôle. C'est juste drôle pour les gens qui sont vraiment très ignorants. Puis oui, j'insulte des gens à la radio, puis mais j'ai appris à Radio X que tu peux insulter des communautés si c'est pas des individus. Fait que moi, aujourd'hui, j'en ai contre les ignorants en général.
Pas seulement les animateurs de Radio X.
C'est une grosse communauté.
Moi, je ne nomme pas de nom. Je ne me ferai pas,
pas
poursuivre aujourd'hui. OK. Mais, bref, en utilisant l'espagnol comme une blague, puis franchement, c'est juste à la base une blague vraiment poche, puis simple, puis trop facile.
Oui.
Mais au final, le message qu'on finit par transmettre, c'est que c'est une blague, l'espagnol, puis que la culture latino-américaine, c'est une blague, puis que una cerveza, por favor, ben c'est drôle, tu sais. Puis qu'on peut juste commencer à danser, puis à imiter Daddy Yankee, puis tout à coup, ben on est un humoriste. Puis en imitant Daddy Yankee, qu'est-ce qu'on imite? Au final, c'est les latino-américains.
Oui.
Puis j'ai déjà parlé de ça à la radio, mais il y a aussi une grosse méconnaissance qu'il y a par rapport à la culture latino-américaine qui englobe plusieurs pays. Certains disent même que Haïti fait partie de l'Amérique latine parce que on parle créole. Créole, c'est une langue latine, mais est-ce que on pourrait rajouter le Québec aussi parce que le français, c'est une langue latine? Pas sûr. mais c'est l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud, en tant que telle, c'est groupes culturels qui sont assez différents l'un de l'autre, qui partagent beaucoup, mais qui sont très différents en termes culturels, puis qui se sentent pas, quand tu vas leur demander à eux, là, ils sentent pas qu'ils ne forment qu'un tout d'amour, peace and love. Là. Pour eux, il y a vraiment beaucoup de pays. Tu sais, déjà, les Européens, entre eux, s'aiment pas beaucoup. Ils s'entendent pour dire souvent qu'ils sont Européens, mais en Amérique latine, il y a plusieurs groupes. Tu sais, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, déjà, c'est différent. T'as le conte de l'Amérique du Sud qui est aussi une autre histoire. Et je pense que je vais m'arrêter là pour mon 5 minutes.
Le Brésil, par exemple, qui est portugais.
On parle brésilien au Brésil?
On parle portugais brésilien, d'accord, d'accord.
Non, mais je te corrigeais pas là. C'est juste que effectivement, on parle plus qu'une langue. En Amérique du Sud, on parle même français.
Ouais. Puis en fait, il y a plusieurs sortes d'espagnol, en fait. Moi, je trouve aussi, parce qu'il y a tellement de vocabulaire qui change d'un pays à l'autre. Mais je pense que la problématique plus large à ce point-ci, c'est est-ce que en faisant des raccourcis aussi faciles, en montrant une culture, est-ce qu'on n'est pas justement en train de la montrer tellement de façon simpliste qu'on vient à renforcer l'idée que cette culture-là, elle est juste comme ça, elle n'a pas d'autre forme.
Exactement, parce que c'est la seule forme sous laquelle on la voit. C'est qui les latino-américains qui sont créateurs ou juste qui sont à la télé au Québec? On a vu beaucoup...
Alexandra Diaz,
j'allais la nommer parce qu'elle est chilienne, c'est la fierté de ma communauté. Voilà, maintenant, elle parle de cuisine.
Non, mais elle parle de repas faciles à faire pour la famille.
Ben oui.
OK, on est vraiment condescendants.
Pour les familles futures.
Non, mais c'est vrai, c'est pas condescendant, vraiment. Genre, je pense qu'il nous manque de ressources alimentaires là, pour comment se débrouiller. Puis moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Là.
J'aimerais qu'on fasse une émission sur les livres de cuisine.
Sur les émissions de cuisine aussi.
Sur les émissions de cuisine,
trois fois par jour.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mais Camilla, pour revenir, qu'est-ce que tu disais? Tu sais, tantôt, je lisais un article, puis j'en ai parlé tout avant l'émission, un article de Françoise Verger qui disait comme quoi qu'il y avait un humoriste très connu français qui faisait toujours son personnage de l'Africain tout le temps, puis que ça avait vraiment déconcerté certaines personnes, parce que quand tu y penses, il y a plus de 50 quelques pays africains, puis de qui tu parles? Tu sais, c'est comme un amalgame, tu mets tout dans le même panier, puis comme si que la culture était la même, comme si que les langues étaient pareilles, puis finalement c'est plus... tu représentes ce stéréotype-là d'une seule façon, puis c'est comme si que après il n'y a pas d'autres peuples, il n'y a pas d'autres cultures, puis que l'Africain c'est une seule chose.
Le Moyen-Orient aussi est souvent victime de cet amalgame-là.
Ouais. Pourtant qu'il est tellement
différent. Toutes les personnes au Moyen-Orient ne sont pas musulmanes, puis tu sais, Amir Kadir est un islamiste, mais à la base lui, même si on enlève la partie totalement islamophobe de ce débat-là, il est même pas musulman, en plus il vient dire tu sais, comme ça n'a même pas rapport à la base. Là. Même dans ton argumentation n'est pas valable.
Mais même là, je veux dire, il y a des personnes qui sont arabes qui ne sont pas de confession musulmane. Ils vont vivre de l'islamophobie. Les personnes qui ont de confession sikh vont vivre de l'homophobie. Puis même là, on pourrait justement souhaiter bon nouvel an au peuple berbère, là, les Kabyles de l'Amérique du Nord.
Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
Mais on va devoir conclure là-dessus parce qu'il ne nous reste pas longtemps.
Non, on devrait en reparler dans les prochaines semaines, justement, des médias avec des communautés, d'ailleurs.
Puis oui, des émissions de cuisine.
On a du stock illimité pour nos prochaines émissions.
Mais les deux pourraient être reliés. Hein?
D'ailleurs, un petit disclaimer qu'on aurait dû faire au début de l'émission, mais on est une majorité de personnes non racisées autour de la table. Mais
c'est bien de le préciser.
On se permet quand même d'en parler parce que c'est important.
Ben, c'est moitié-moitié. Là.
Ouais, on est à peu près moitié-moitié.
J'ai oublié Marie.
Ben,
merci. Merci. Moi, je trouve quand même qu'on n'est on pas pire là, au niveau de nos tokens. Là, on les a bien cultivés.
C'est vrai. C'est vrai.
Merci.
C'est tout le temps qu'on
avait. Je me sens comme une plante qui s'épanouit.
C'est tout le temps qu'on avait. Je vous aime beaucoup, mais il va falloir que je vous coupe.
OK, bye.
Fait que c'était la photo média.
Camilla finit en chantant Despacito.
Non, c'est Emilien qui allait chanter.
Despacito.
OK, est-ce qu'on peut couper?
Oui,
on peut couper maintenant, là.
Ça, s'il vous plaît.
Marie vient de couper mon micro, mais bref, je vais juste une dernière fois nommer tout le monde. Camilla Rodriguez-Sia, Étienne Tardy-Paradis, Charles Lemieux, Tessie Jean-Paul, Myriam Bernet, Marie Chabot-Jensen et Emilien Roscanou. On vous souhaite un très bon deux semaines parce que c'est la qualité qui compte et non la quantité. À bientôt. Au revoir.
Salut.